Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Vai a casa tua e vai a lavorare. Noi vogliamo mangiare clandestini.
Bonjour. Les démêlés de Matteo Salvini avec la justice italienne se poursuivent. Le chef de la Ligue du Nord est convoqué samedi au tribunal de Palerme, en Sicile, pour une deuxième audience préliminaire dans le procès Open Arms. En août 2019, l'ancien ministre de l'Intérieur avait empêché l'accueil à terre de 147 migrants après un sauvetage en Méditerranée de l'ONG Open Arms. Il est poursuivi pour séquestration de personnes et abus de pouvoir. Les détails avec notre correspondante Cécile Debarge.
Les juges du tribunal de Palerme décideront-ils de poursuivre en justice Matteo Salvini ou d'abandonner les poursuites? C'est la question à laquelle doivent permettre de répondre les audiences préliminaires commencées au mois de janvier et qui se poursuivent ce samedi 20 mars. Au cours de la première audience, le tribunal a accepté 18 parties civiles, 7 migrants et une dizaine d'associations qui n'ont pas hésité à rebaptiser ce procès le procès contre la haine. Parmi elles, le CIS, par exemple, une ONG palermitaine spécialisée en coopération internationale. Dans un communiqué de presse, son président estime que la gravité des faits reprochés à l'ancien ministre de l'Intérieur tient aussi à la présence à bord de 27 mineurs qui auraient dû être immédiatement pris en charge. C'est la deuxième fois que Matteo Salvini est accusé de séquestration de personnes et d'abus de pouvoir par les autorités judiciaires italiennes.
L'autre procès en cours se tient à Catane, toujours en Sicile, et il concerne un bateau de la marine italienne, le Gregoretti.
On devrait savoir au mois de mai si les poursuites sont maintenues. Le parquet a d'ores et déjà demandé qu'elle soit abandonnée. Si Matteo Salvini se dit serein et fier, l'ONG espagnole Open Arms a voulu rappeler que le chef de file de la Ligue ne devrait pas être le seul accusé, renvoyant les gouvernements italiens et européens à leur inaction sur l'obligation de secours en mer imposée par la Convention de Hambourg. Les chiffres leur donnent raison en Italie. Certes, Lucia Lamorgese, l'actuel ministre de l'Intérieur qui a succédé à Matteo Salvini, a radicalement changé la communication sur les questions migratoires. Les décrets sécurité qui supprimaient nombreux droits des migrants et demandeurs d'asile ont été abrogés, mais dans les faits, la politique reste ferme sur les sauvetages en mer. Une étude publiée par le chercheur italien Matteo Villa a montré que d'octobre à décembre 2020, la ministre actuelle a bloqué 7 navires de sauvetage en mer contre 4 pour Matteo Salvini au plus fort de la crise à l'été 2019. Une victoire idéologique pour le chef de file de la Ligue qui, même après avoir quitté le ministère et le gouvernement, a durablement marqué de son empreinte la politique migratoire italienne.
Women around the world find the strength to express themselves and they are heard.
Il y a quelques jours en Turquie, un père était arrêté pour avoir posté sur TikTok une vidéo dans laquelle il caressait la poitrine de sa fille de 15 ans. Selon les associations, les violences contre les femmes sont en augmentation dans le pays, mais le phénomène est minimisé par les autorités. En Grèce aussi, la situation est difficile pour les victimes. Il a fallu attendre janvier dernier et les révélations de viol d'une ancienne championne olympique pour que la parole commence à se libérer sur le sujet. Reportage à Athènes de Joël Bronner.
L'élément déclencheur qui m'a aidé à parler ouvertement, c'est que je me suis rendu compte que d'autres personnes étaient peut-être en danger. À l'époque, je n'avais pas eu assez de force pour essayer de me protéger ou de me battre pour moi-même, mais j'ai finalement trouvé ce courage quand j'ai réalisé que cette personne allait peut-être agresser d'autres enfants.
Le MeToo grec, comme on l'appelle ici, a démarré à la mi-janvier après le témoignage de cette sportive qui est l'une des plus renommées et les plus respectées du pays. Sofia Bekatoru, qui se confiait ici à l'AFP, est une ancienne championne olympique de voile et c'est donc elle qui, à 43 ans, a ouvert la boîte de Pandore en dévoilant avoir été victime d'agressions sexuelles de la part d'un responsable de sa fédération lorsqu'elle était jeune athlète il y a plus de 20 ans. Ces déclarations ont immédiatement fait grand bruit en Grèce, où la sportive a notamment été reçue par la présidente de la République. Très vite, les révélations d'agressions sexuelles se sont alors multipliées, et ce bien au-delà du seul monde du sport.
Je ne m'attendais pas à ce que l'exposition médiatique soit si importante, mais au final, je suis vraiment heureuse parce que beaucoup de gens ont parlé ouvertement de leur harcèlement, de leurs agressions, et sont même allés voir les autorités. Notre loi doit changer, et notre société doit également changer, pour soutenir les victimes et non les violeurs.
And not embrace the rapists. Dans un éditorial, Tanea, l'un des principaux quotidiens grecs, assurait peu après les révélations de Sofia Bekatoru que la championne olympique avait accompli son devoir non seulement envers les autres femmes, mais aussi envers toute la société en ouvrant une discussion que nous aurions dû mener il y a bien longtemps. Cette discussion s'est alors propagée, en particulier dans le milieu culturel, et plusieurs affaires ont éclaté au grand jour dans les rangs des actrices et des acteurs. À l'image de Pénélope Anastassopoulou, qui a ainsi dénoncé avoir été, elle aussi, victime de harcèlement dans un cadre professionnel.
La route est encore longue, même si nous avons atteint un stade auquel personne ne s'attendait. Certains faits sont extrêmement graves. Dans le milieu des acteurs, nous avons commencé par la dénonciation de simples cas, avec beaucoup de guillemets, de pression et violence verbale au travail. Et voilà qu'on parle à présent de viol d'enfants. C'est sûr qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir.
L'actrice fait ici allusion à la plus grosse affaire qui a ébranlé le monde de la culture dans le sillon de la vague MeToo. L'ex-directeur artistique du Théâtre National Grec, Dimitris Lignadis, incarcéré depuis, est accusé d'une série de viols sur mineurs, de jeunes garçons en l'occurrence. Une affaire qui a rapidement pris une dimension très politique. Lina Mendoni, la ministre grecque de la Culture, a publiquement exprimé qu'elle avait été dupée par Lignadis, qu'elle qualifie depuis de personne dangereuse. Face à l'indignation suscitée, une centaine d'actrices et d'acteurs ont alors manifesté le mois dernier devant le ministère de la Culture pour demander sans résultat la tête de la ministre qui avait nommé Lignadis à la direction du théâtre en 2019. Parmi les manifestants, cette étudiante en art dramatique.
Il y avait des rumeurs, mais on n'y croyait pas. On pensait qu'il s'agissait d'exagération. Mais la vérité est encore pire que ce que l'on pensait. Chaque jour, une nouvelle personne sort du silence et raconte ce qui lui est arrivé. Traditionnellement, les gens en Grèce ne parlent pas, car si vous êtes victime, la société a tendance à se demander quel est votre problème à vous. Donc les gens ont peur de parler. Mais je crois que les choses sont en train de changer. J'espère en tout cas qu'elles vont changer.
Également présent à la manifestation devant le ministère de la Culture, le chanteur et acteur Thémistocles Karpodinis. Lui aussi se réjouit de ce changement et trouve souhaitable que la vague du MeToo grec s'étende à toute la société.
J'espère que ce mouvement va se répandre dans l'ensemble des milieux professionnels, pas seulement dans les théâtres et chez les acteurs, mais aussi dans les universités, les hôpitaux, les médias, la chanson. Partout, il y a des viols qui sont commis et des positions de pouvoir qui sont utilisées à mauvais escient.
Via son propre mouvement MeToo, la Grèce a commencé à mettre en lumière ce qui était jusqu'alors largement tabou, à savoir les affaires de mœurs et de harcèlement sexuel. Un premier pas dans une société dont le caractère plutôt conservateur explique sans doute en grande partie la naissance tardive de ce mouvement en comparaison de la vague internationale déclenchée aux États-Unis quelques 3 ans plus tôt.
D'autres pays du sud-est de l'Europe ont récemment été secoués par le mouvement MeToo, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine du Nord. Dans cette région, le patriarcat est puissant, mais les femmes, Simon Rico, veulent en finir avec l'impunité des agresseurs.
Tout a commencé à la mi-janvier par le témoignage d'une jeune comédienne serbe, Milena Radulovic, qui accuse son ancien professeur de théâtre, le très réputé Miroslav Aleksic, de l'avoir agressée sexuellement et même violée quand elle était encore mineure. D'autres comédiennes ont depuis révélé avoir elles aussi déposé plainte contre Miroslav Aleksic pour les mêmes faits, ce qu'elles n'avaient pas osé jusque-là dire publiquement. Très vite, de nombreuses personnalités leur ont apporté leur soutien. Symbole très fort, cette mobilisation a conduit au placement rapide en détention provisoire du professeur incriminé, la justice serbe invoquant, je cite, le choc violent provoqué par cette affaire au sein de la société serbe.
Et de Serbie, la vague a atteint les pays voisins.
Tout à fait. À Sarajevo, la capitale bosnienne, c'est l'Académie des arts de la scène qui est secouée par des révélations d'abus sexuels. Un groupe de parole a été créé sur Facebook pour permettre aux victimes d'échanger et d'unir leurs forces afin de lutter collectivement et publiquement contre ces violences. Son nom, Nisam Tragila, je ne l'ai pas cherché. Un nom en réponse à tous les commentaires haineux et sexistes accablant les femmes victimes de viols et d'agressions sexuelles de l'avoir bien cherché. En Croatie, plusieurs comédiennes ont elles aussi révélé avoir subi des violences sexuelles de la part de collègues masculins, des témoignages là encore relayés sur le groupe bosnien Nisam Tragila, devenu l'incarnation balkanique de ce mouvement dans toute l'ancienne Yougoslavie. À noter qu'un site internet slovène, bitna.si, recueille aussi de nombreux témoignages de femmes balkaniques dénonçant les agressions dont elles ont été victimes.
En Macédoine du Nord, Simon, c'est une affaire de doxing, c'est-à-dire la divulgation récit d'images volées et diffusées via la messagerie Telegram qui a forcé les autorités à réagir.
En effet, et là encore, c'est un témoignage sur Instagram, cette fois, qui a réveillé la colère. Fin janvier, une jeune femme racontait dans une longue vidéo comment elle s'est faite harceler après que des photos privées lui ont été dérobées sur les réseaux sociaux, puis partagées dans un groupe Telegram. Ce groupe, constitué de milliers d'hommes, avait pour seul objet l'échange de photos, de vidéos et de contacts de femmes. Autant de données privées censées être protégées. En 2020, ce même groupe avait déjà été dénoncé, mais la justice macédonienne avait vite enterré l'affaire, les autorités de Skopje expliquant que Telegram refusait de leur transmettre les données de ses utilisateurs et donc leur identification. Cette fois, face à la colère populaire, le Premier ministre et le président macédonien sont eux-mêmes montés au créneau et le groupe Telegram a été immédiatement fermé. Le problème, c'est qu'un autre a été recréé avec les mêmes membres dans la foulée. 16 associations féministes ont donc organisé une marche début février contre l'impunité des harceleurs en ligne avec l'objectif de mettre la pression sur les autorités pour les forcer à agir, notamment pour accélérer les réformes afin que la Macédoine du Nord se dote d'un cadre juridique adapté à la lutte contre la criminalité en ligne.
Merci Simon Rico. Au Royaume-Uni, c'est le récent meurtre d'une londonienne qui pose question sur la place des femmes dans la société et dans l'espace public. On en parle avec Sacha Mitchell de Courrier International. Bonjour Sacha.
Bonjour Juliette.
Pour qu'elles se sentent moins vulnérables, il faut adapter notre environnement aux besoins des femmes, explique le Sunday Times.
Oui, c'est un article qui fait suite à un événement qui a traumatisé le Royaume-Uni la semaine dernière. Cet événement, c'est la disparition et le meurtre de Sarah Evrard. Le corps de la jeune femme de 33 ans qui n'avait plus donné signe de vie depuis plus de 10 jours alors qu'elle rentrait chez elle dans la nuit dans la capitale britannique a été retrouvé vendredi 12 mars. Et c'est peu dire donc que le drame a provoqué une vive émotion et une immense colère parmi les femmes du pays. Des centaines de témoignages affluent ces derniers jours dans la presse et sur les réseaux sociaux, des témoignages de harcèlement, d'agression subie dans l'espace public. Face à cette problématique, The Sunday Times donne une solution très simple pour réduire le sentiment de vulnérabilité et les agressions. En fait, il faut écouter les femmes et prendre en compte leurs expériences au moment d'aménager l'espace public.
Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Eh bien, plusieurs choses. Certains travaux, par exemple, ont montré que les femmes sont plus sensibles à l'état de l'espace public et à son entretien. Pour elles, graffitis et vitrines condamnées sont autant de signes d'un lieu sans vie et donc d'un lieu où elles sont plus vulnérables. Première chose à faire, donc, redynamiser ces endroits. Il y a aussi la question de l'éclairage nocturne qui doit être travaillé, le fait de passer d'une rue très lumineuse à une ruelle sombre, concrètement. Et en fait, en filigrane, l'article explique que le fait de rester visible est un point essentiel à la sécurité des femmes. C'est ce que les chercheurs appellent la surveillance naturelle. Voilà pour les pistes, mais une fois encore, martèle The Sunday Times, la première étape, c'est de dresser un état des lieux complet pour comprendre pourquoi les femmes sont désavantagées, car pour l'heure, conclut l'hebdomadaire, l'urbanisme reste dominé par un modèle masculin par défaut qui néglige, voire ignore, les besoins féminins.
Toujours dans Courrier International, on part dans un petit pays dont on parle peu, Andorre. La principauté est devenue, selon le journal El Confidencial, un Eldorado pour les youtubeurs espagnols.
Oui Juliette, et on ne parle pas de quelques cas isolés. Ce sont plus de 30 youtubeurs vedettes qui ont élu domicile en Andorre ces dernières années, nous apprend le journal en ligne madrilène. Il faut dire que la principauté de 77 000 habitants mise tout sur le déploiement de la fibre optique depuis quelques temps, principalement pour attirer ce type de résidents. Alors outre la qualité de la connexion internet, ces stars du web, elles sont venues chercher tranquillité et beaux paysages. Les youtubeurs interrogés par El Confidencial louent par exemple le fait, je cite, qu'il n'y a pas de bagarre ici. Mais la réelle raison de leur émigration, si l'on peut dire, ce n'est ni internet ni la sécurité, mais la fiscalité avantageuse d'Andorre. Il n'y a presque pas d'impôt sur les investissements ni sur les dons, et l'impôt sur les sociétés est très bas, 10% contre 25% en Espagne, explique Victor Dominguez, youtubeur fitness aux 400 000 abonnés. Formant un petit milieu d'expats, ces vidéastes du web ne passent pas inaperçus, note El Confidencial. Quand on parcourt leur lotissement, on voit de belles demeures accrochées aux pentes auxquelles on accède par des petites routes enlacées. Argent, belles demeures, voitures de luxe, chic à tous les étages, telles sont les facettes de leur quotidien, souligne encore le journal en ligne de Madrid. Inutile de vous dire donc que cet exode fait jaser et grincer des dents de l'autre côté de la frontière.
Il y a Sacha, des territoires qu'on connaît mal et puis il y a ceux qu'on pense connaître, comme l'Allemagne. L'Allemagne qui n'est plus pourtant la championne de l'organisation qu'on imagine.
Absolument, et c'est ce que nous assure le journaliste croate Zoran Arbutina sur le site de la Deutsche Welle. Lui, il habite outre-Rhin et ce qu'il nous raconte, c'est qu'à son grand étonnement, ses compatriotes croates se sont longtemps abstenus de lui demander comment se passait la vie là-bas. Ils étaient persuadés d'une chose en fait, c'est qu'ils connaissaient bien l'Allemagne et qu'il n'y avait rien à raconter. Au fond, c'est un pays bien structuré et organisé où tout fonctionne à la perfection. Point. D'ailleurs, récemment encore, les Allemands eux-mêmes entretenaient ces clichés, assure Zoran Arbutina.
Puis le Covid est arrivé.
Eh oui, puis le Covid est arrivé. Tout a commencé par les masques, nous dit le Croate. Lorsqu'ils sont devenus obligatoires, on a découvert que les stocks disponibles étaient bien trop faibles. Puis, lorsque les écoles ont fermé, tout le monde a pu constater qu'aucun établissement ou presque n'était prêt pour l'enseignement à distance, ajoute le journaliste. Et puis même sans parler du Covid, on pourrait évoquer des trains toujours en retard, le déploiement particulièrement lent de la 5G et les zones blanches à gogo à travers le pays. Alors, il ne faut pas non plus tout dramatiser, beaucoup de choses fonctionnent très bien, concède Zoran Arbutina. L'Allemagne joue toujours en première division, bien qu'elle n'occupe plus la première place, métaphorise le Croate. Pour revenir dans la course, selon lui, le pays doit se libérer de son image de champion du monde de l'organisation et s'adapter à la réalité. Être normal n'est pas une insulte, conclut le journaliste. D'autres pays se sont engagés dans cette voie il y a longtemps déjà.
Merci Sacha Mitchell, et à la une de Courrier International cette semaine, pourquoi les animaux nous font du bien. Un peu de douceur en cette fin de semaine. Musique, musique, et Vincent Théval nous fait découvrir aujourd'hui Ella Marie Leather, un titre extrait du dernier album de James Yorkstone.
L'Écossais James Yorkstone fêtera cette année ses 50 ans, mais aussi 20 années d'une carrière discographique en tout point impeccable, dans le registre d'un folk à la fois fidèle aux traditions, mais aussi très aventureux dans ses flirts avec l'électronique et le jazz, ou encore ses nombreuses collaborations. Et pour son 10e album, une fois encore, James Yorkstone ne cède rien à la routine, puisque l'auteur-compositeur est allé enregistrer ses nouvelles chansons en Suède, en compagnie du Second Hand Orchestra de Carl Jonas Wimqvist, une petite troupe de musiciens ouverte aux improvisations et aux diapasons de mélodies très pop. Bouclé en 3 jours de studio et sans répétition, The Wide River est une petite merveille.
Ella Mary Leather, I have spent my life like some classical shepherd. I have now worked, I've sat and dozed in the sun and composed. Ella Mary Leather, I regret ya. But on the uncertain days of the year, only on certain days of the year, and this is where that beggar, he attacked you. You wanted me to come back here later and pierce on his back, but I put you off by pouring you vodka after vodka and Judas, Judas. My sobriety went right out the window, and yours and mine, our plans changed still and after. And Ella Mary Leather, do you believe your elders? Do you believe your elders? Do you believe your elders?
Ella Marie Leather, une chanson de James Yorkstone and the Second Hand Orchestra. À la réalisation d'Accent d'Europe, Françoise Grelot. Vous pouvez retrouver l'émission sur la page podcast du site de RFI. À bientôt.
And I wish you well, but it's best not to talk of the old ways. On certain days of the year, we both would struggle to dance anymore. And I bring our men.